séance au séminaire avec Mireille Malt, chercheur IRCAM, chercheur associé aussi à l'IRMUS, et donc on va parler de descripteurs de bas niveau et d'analyse musicale, quelques réflexions un peu plus générales.
Voilà, merci Pierre. Voilà. Et aussi pour compléter tout ça, réalisateur d'informatique musicale aussi. Bon, je pense que mes chers collègues ont déjà exposé un bon nombre de faits, ce qui va me rendre la tâche beaucoup plus simple. Et pour vous, ça va être un peu plus court, ce que je pense que c'est appréciable. Mais j'aimerais présenter quelques petits points, si vous voulez, qui sont importants. Ce sont des choses assez générales. On pourra en parler. Je pense que ce dont a été déjà montré, il y a déjà les exemples. Alors, moi, je vais parler de quelque chose un peu particulier, c'est les descripteurs de bas niveau. Après, on verra très, très rapidement qu'est-ce que c'est. Mais la première chose qui est importante, c'est que l'utilisation des descripteurs, d'un point de vue plus général, presque, je fais une petite synthèse, presque, dépend vraiment, si vous voulez, de l'objet de l'analyse. Je pense que vous avez pu voir, comme dans le cas de Pierre, comme dans le cas de Philippe, si vous voulez. Et aussi, ça dépend de définir le choix d'une méthodologie, ce qui pour moi est vraiment très très important. Et après ça, dans certains cas, il y a une chose aussi qui est importante, c'est de trouver ce qu'on appelle des représentations convenables. Alors, je l'ai mis entre guillemets, parce que, voilà, c'est des représentations convenables. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais... Et évidemment, après tout ça, ce dont ça a été signalé par Pierre... Et ça a été peut-être montré par Philippe aussi, dans le cas de Philippe, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que tu as navigué par Mir Toolbox, par MATLAB, si je ne me trompe pas, quelque part. Sonic Visualizer, et ainsi de suite. Voilà, ce n'est pas évident dans le cas musicologique. Et ça pose un autre problème qui a été cité par Pierre aussi, qui est le problème du workflow. Ça veut dire vraiment du flux de travail entre les musicologues. J'espère qu'on aura le temps de parler de ça, mais au moins ça reste. Mais c'est un vrai problème, ça a été déjà soulevé avec la problématique des formats, grosso modo des formats. Alors, un deuxième point que j'aimerais mettre, qui a été aussi souligné dans les divers exposés, c'est que c'est évident, il faut faire une grande différence entre description et analyse. Très personnellement, mais je pense que quelques-uns seraient d'accord, l'analyse musicale, pour moi, infinie, c'est une interprétation et souvent très, très personnelle. Et ça, c'est, je pense, c'est important, c'est quelque chose d'autre, voilà, que, par exemple, les analyses automatiques. Les analyses automatiques, au cas où, ce sont des générations de descriptions. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'inutile, au contraire, mais que ces descriptions sont simplement une étape dans le processus analytique. Voilà, peut-être il faudrait à un moment ou à un autre, voilà, qu'est-ce que c'est cette chose qu'on appelle analyse dans ce contexte ici. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et le troisième point que j'aimerais parler, ou simplement citer, si vous voulez, peut-être c'est des petites... Je ne sais pas si c'est le... Bon, je vous dis... On fait très attention aux mots. J'allais dire que c'est des petites bombes que j'allais lâcher, mais ça peut être compliqué. Mais voilà, c'est des petits points que j'aimerais lâcher. Et le troisième, c'est l'importance du choix de représentation. Je pense que souvent dans le cadre analytique, en musicologie, il y a une première phase de travail, si vous voulez, que ça peut être en musicologie, lorsqu'on travaille avec une partition ou on travaille avec des musiques de tradition orale. Il y a pour moi une première phase que j'aime appeler la phase de changement ou de construction de représentation. Et c'est cette phase où on va construire des représentations qui sont différentes, ou sont des représentations, voilà, différentes du support qu'on a, du support qu'on a. Et normalement, si vous voulez, c'est on construit ou on change les représentations pour plusieurs raisons. Alors, un peu dans le désordre. Un, pour expliciter peut-être des données pour qu'elles soient accessibles dans l'espace informatique. Par exemple, on va convertir des notes d'une fugue de Bach en des données MIDI pour pouvoir les manipuler. Quelquefois, c'est ce qui va être le cas dans la grande partie, par exemple, c'est ce qu'a montré un tout petit peu Pierre, ça veut dire que les représentations sont des stratégies heuristiques pour inférer des connaissances. Ces connaissances, par exemple, c'était par exemple la segmentation et ainsi de suite. Quelquefois, ces représentations sont des guides d'écoute. À la base, par exemple, la cosmographe, c'était un peu ça, c'est construire des guides d'écoute. Ou quelquefois, par exemple, dans le cas des musiques de tradition orale, c'est la première phase pour se construire un support d'analyse, pour commencer à travailler. Voilà. Alors ça, c'est très important. Voilà. Le choix des représentations. Ça, c'est très important pour une raison très, très simple, parce que, si vous voulez, le même phénomène, quelquefois, peut avoir de multiples représentations. Et si vous voulez, la représentation, sa forme, les hypothèses sous-jacentes et les caractéristiques d'une représentation vont induire des interprétations. Je ne vais pas le faire maintenant, on n'a pas le temps pour que je fasse tout le sketch. Mais imaginez-moi, je vais me lever maintenant, je vais aller jusqu'au piano, je vais ouvrir le couvercle et je vais jouer une note. Je vais me la jouer dans votre esprit, je ferme le couvercle, je viens là. Et imaginez combien de représentations, par exemple, je peux avoir simplement de ce petit phénomène. Je peux avoir un très grand nombre de représentations. Là, c'est passé très vite, évidemment, mais il y a à peu près 27 représentations possibles de ça. Ce qui est très important dans ce fait, c'est que, si vous voulez, que chaque description va impliquer dans ce qu'on appelle, si vous voulez, un modèle de connaissance. Je ne vais pas en parler plus, parce que je sais que Geoffroy m'a dit qu'il en parlerait de ce point. Mais ça, c'est important. Chaque représentation, quelque part, elle apporte avec elle ce dont on peut voir et ce dont on ne peut pas voir. Mais bon, ça, c'est pour une autre histoire, ça, c'est pour un autre moment. Mais ça, je pense que c'est des points importants, quelque part, pour l'utilisation des descripteurs, mais pour l'utilisation de représentations en général en analyse. Pour revenir très rapidement à notre sujet, je reviens très très rapidement, voilà, très très bien. Alors concernant l'analyse du son, alors vous avez déjà vu, je vais aller très très vite, on peut avoir des représentations en forme d'onde, c'est ce que vous avez en haut, des représentations sonographiques, les matrices de similarité que nous a montré Pierre Coupry, voilà, avec l'idée qu'elles peuvent être une aide précieuse pour la segmentation. Il y a quelque chose que Pierre ne nous a pas montré, mais ça fait partie de son logiciel E-Analyse, par exemple, ce qu'on appelle des sonogrammes différentiels. Si je ne me trompe pas, c'est Jean-Marc qui est à la base de cette idée, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Alors, on peut avoir un très grand nombre de représentations, plus toutes celles que Pierre Coupry vous a montrées. Et on a cette chose qu'on appelle, alors je vais parler très très brièvement, un descripteur audio. Alors je vais dire très très brièvement, on va appeler un descripteur audio un paramètre uni ou multidimensionnel, si vous voulez, qui va apporter une dimension particulière du son ou du signal audio. Hein. On a un certain nombre de descripteurs que vous avez déjà vus, là je fais une petite récapitulation, l'amplitude, l'énergie d'un son, la brillance, le centroïde spectral, on reverra, l'écart type spectral, le suivi de fréquence fondamentale, le flux spectral, et ainsi de suite. Voilà. Ce qui est très intéressant, et comme vous l'avez déjà remarqué, on vous a déjà présenté beaucoup de courbes de descripteurs audio, c'est que normalement, ces descripteurs peuvent être très très utiles pour identifier, si vous voulez, des morphologies globales ou locales, des transitions, si vous voulez, des articulations, et notamment une chose qui va être très importante, c'est l'évolution du matériel sonore. Là, je vais avancer un tout petit peu dans ce que j'allais faire, pour essayer de faire ça un peu plus court, voilà. Mais notamment dans beaucoup de musique du XXe siècle, XXIe siècle aussi, deuxième moitié du XXe et XXIe siècle, je pourrais dire que beaucoup de la forme est contenue dans l'évolution de l'énergie, plus que peut-être dans une forme un peu narrative. Alors de ce point de vue, les descripteurs sont vraiment une aide utile. Et notre point qui est important aussi, et que je pense que c'est quelque chose plutôt à faire, c'est que certains descripteurs apportent avec eux un début de sens ou d'interprétation musicale. Alors par exemple, dans le cas de la voix, la fréquence fondamentale encode une partie de cette chose qu'on appelle la prosodie. Par exemple, les variations d'amplitude, ça c'est quelque chose de très très facile. On peut étudier le phrasé d'une interprétation par, entre autres, par l'étude de la variation d'amplitude. Comme cela a été montré, voilà la brillance, le mot est un peu bizarroïde là, mais on l'appelle de plusieurs manières, mais le centroïde spectral ou la brillance est une partie importante, un descripteur important pour étudier cette chose qu'on appelle le timbre. Voilà, l'écart-type spectral, si vous voulez, c'est quelque chose qui a été, il y a une hypothèse assez récente, où par exemple il est associé avec cette perception qui est appelée le volume orchestral, c'est ce que Coquelin appelle le volume orchestral dans son traité d'orchestration. Voilà. Alors ça c'est quelque chose d'utile, c'est-à-dire certains de ces descripteurs possèdent en partie une signification qui se rapproche de certains concepts acoustiques, psychoacoustiques et musicaux. Mais le grand problème, alors je vais faire court aussi, c'est que quelquefois un descripteur tout seul n'est pas vraiment quelque chose d'utile. Alors désolé, je vais m'autociter, mais bon, c'en est ainsi. Dans d'autres articles, on a proposé le fait que voilà, un seul descripteur, quelquefois, ou beaucoup de fois, n'est pas suffisant pour décrire des situations complexes. En effet, un descripteur, si vous voulez, il n'est pas suffisant pour décrire toute une situation, ce qui nous amène quelquefois à construire ce qu'on appelle des descripteurs composés ou des représentations qui sont composées. Et ça nous permet dans certains cas de pouvoir se rapprocher de certains concepts, musicaux. Alors il y a quelques temps, ça fait déjà maintenant 6-7 ans, avec Emmanuel Jourdan, on a développé une représentation qu'on appelle BSTD, vous pouvez avoir beaucoup de noms. Et l'idée de cette représentation que vous voyez là est la suivante. Alors je vais refaire après un tout petit peu. L'idée c'est d'imaginer un espace en trois dimensions. En trois dimensions, vous avez le temps, ici les fréquences, et vous avez ces formes un peu bizarroïdes, où le centre de la forme, c'est le centroïde spectral, et l'auteur de cette forme, c'est ce qu'on appelle le registre spectral, est relié à ce qu'on appelle l'écart-type spectral. Alors, pour faire un petit rappel très très vite, je vais revenir à cette forme. Je vais changer de diapositive. Il y a une formule, ne regardez pas la formule s'il vous plaît, vous regardez l'autre image. Voilà. Alors, pour rappel si vous voulez, le centroïde spectral, c'est lorsque vous avez un spectre, ça a été déjà dit, mais simplement pour vous rappeler rapidement, c'est exactement ce barycentre, hein. Ça veut dire dans chaque spectre, voilà, vous avez une espèce de barycentre. Le barycentre, c'est cette fréquence ici. C'est ça qu'on appelle le centroïde spectral. Un autre descripteur qui va être important pour la suite, c'est ce que j'appelle la variance, ou plutôt l'écart-type spectral dans ce cas. Alors, ce qui va être l'écart-type spectral va être autour de ce barycentre, comment sont distribuées les fréquences. Alors ici, vous avez un spectre avec un écart-type petit, et vous pouvez voir qu'en fonction de la morphologie du spectre, cet écart-type va s'agrandir. Ça va être très très important, parce que de la même manière comme la brillance ou le centroïde spectral nous donne une indication de la couleur du son du timbre, l'écart-type spectral, c'est une donnée assez intéressante qui nous donne une idée du volume, de l'épaisseur du spectre. Alors à partir de ça, avec Emmanuel Jourdan, on a développé cette représentation qui est censée nous donner, alors dans les deux dimensions, le temps ici dans la fréquence, vous avez alors ces formes où vous avez la hauteur, c'est le registre spectral, le centre, c'est le centroïde spectral, et la couleur, c'est quelque chose qu'on va appeler la texture, donc j'en parlerai dans quelques instants. Voilà, ça c'est un peu ça. Alors quel est l'intérêt de cette représentation? C'est comme je le dirai dans quelques instants, je vais sauter un tout petit peu, on essaye de modéliser, de se rapprocher du concept un peu schefferien de masse sonore, de masse spectrale. Et nous pensons que ce type de représentation nous aide à se rapprocher de cette idée. Juste pour vous donner une idée, ça veut dire quel serait l'apport, par exemple, de cette représentation à d'autres représentations. Alors vous avez ici c'est tout le Boléro de Ravel. Oh, il y a le L qui est parti, j'en suis désolé pour lui, dans l'interprétation de Pierre Boulez. Et vous voyez en bas le spectrogramme. Évidemment, dans le spectrogramme, on voit bien l'épaisseur spectrale, l'écart type, voilà, l'épaisseur spectrale qui augmente. On voit un peu l'intensité. Mais j'avoue qu'avec l'autre représentation, on a pour moi une représentation un peu plus intuitive, spécialement ici, que vous avez les divers solis, si vous voulez, même avec accompagnement, et on voit bien cet enflement spectral. Voilà, comme je vous disais, ça je ne vais pas vous revenir là-dessus, c'est que l'idée ici, c'est de un peu modéliser cette idée de concept de masse sonore. Par contre, où j'aimerais venir, et qui est très très important, c'est que si on a toujours le centroïde et l'épaisseur, dans ce troisième axe, il y a une information qu'on appelait de texture. Alors texture, c'est vraiment un abus de langage, on l'assume. Mais l'idée, c'est mettre un troisième descripteur, a priori l'amplitude ou l'énergie, ou le flux spectral ou autre, ou la rugosité, ou n'importe quel autre type de descripteur qui puisse nous aider à décrire une situation donnée, on va vous donner des exemples, et qui puisse rendre compte de cette idée de texture sonore. Pour vous donner une petite idée de comment fonctionne un tout petit peu ce descripteur ou cette représentation, il y a un petit extrait ici, voilà, il y a un petit extrait d'une pièce de Hans Tutschkou qui normalement est pour un ensemble de chanteurs électroniques. Ça c'est juste une petite section. Alors je vous propose, je vais voir le son, ça devrait aller. Voilà. Je vais arrêter juste ici. Alors vous voyez, moi je trouve ça assez intéressant parce qu'en plus de prendre en compte certaines caractéristiques comme l'évolution du timbre, vous pourriez me dire mais ça avec le centroïde on le règle, évidemment, ça va de soi. Mais vous voyez, il y a aussi l'idée de densité spectrale, et notamment à la fin, on voit cette espèce de d'élément, si vous voulez, de déconstruction, où on a cette densité spectrale qui commence à diminuer, au même temps qu'on a une petite oscillation dans la couleur du son. Alors dans ce cas ici, la couleur que vous voyez ici, c'est l'amplitude ou l'énergie plutôt. Alors ce qui peut se passer quelquefois, c'est comme ça a été signalé, dans des situations comme celle que vous voyez, j'ai ce que j'appelle l'axe Z, c'est la couleur, j'ai l'énergie, mais on voit que on n'a pas vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, on peut imaginer certaines sections qui apparaissent. Si on essaye d'aligner ça avec la partition, on se dit oui, très très bien, oui, il y a ici une section qui arrive, bien sûr, il y a une espèce d'attaque du cœur. Après, c'est assez bizarre. Oui, il y a une petite, on voit qu'il y a une petite corrélation, voilà, à certains endroits, voilà, je vous ai déjà signalé. Par contre, il suffit de changer, par exemple, ici, j'ai changé l'information de texture, c'est la variation spectrale perceptuelle. Alors, un petit détail avant que je continue. Toutes ces analyses, j'en parlerai à la fin, elles ont été faites avec deux... Tout ça a été fait dans Max MSP, je vous en dirai plus. Notamment, les analyses sont faites avec un outil qui s'appelle IRCAM Descriptors, qui a été développé sur Max par Dimo Schwartz, à partir du travail originel qui avait été fait par Geoffroy Peters. Voilà, ça c'est très très important. Et l'outil de visualisation, c'est quelque chose qui s'appelle Imubu, qui est développé notamment par Riccardo Borghesi et Norbert Schnell. Voilà, ça c'est important. Je reviens. Alors, comme je vous disais, alors, cette variation spectrale perceptuelle, c'est dans le cadre des analyses de cette boîte d'outils qui est IRCAM Descriptors. Alors, on voit qu'ici, il y a des articulations qui apparaissent. Et on voit une très très bonne corrélation avec la partition. Et pour cause, c'est très intéressant cette partie, parce que, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'arrive à voir une corrélation avec... Alors, qu'est-ce que c'est la variation spectrale? C'est à peu près ce que c'est le flux spectral aussi. Ça veut dire qu'on essaye de voir si le spectre, si le spectre varie d'un moment à un autre. On calcule, il y a la... et calculer la distance à chaque instant, d'un instant avec l'autre. Alors ce qu'il me dit ici, c'est qu'à cet endroit qui est très très rouge, il y a beaucoup de mouvements spectral, et au moment que c'est vert, il y a très peu de mouvements spectral. Alors ça c'est intéressant, je ne vais pas vous raconter plus, on va essayer d'écouter, et pour voir à quoi ça correspond ça, et ça c'est assez intéressant. Compris, ce changement de représentation nous permet de clairement identifier les parties, grosso modo, homophoniques et polyphoniques. Voilà, ça c'est... Alors j'aimerais vous donner rapidement, je ne veux pas prolonger beaucoup, juste un dernier petit exemple de l'application, notamment de cette représentation, et après conclure très brièvement, dans le cadre d'un travail sur l'analyse de la musique électroacoustique de Xenakis, notamment de la fameuse phase GRM. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été fait dans le cadre d'un colloque à Paris 8, et je pense qu'il y aura une publication bientôt. Alors je vais essayer d'avancer très très vite. Oups. Comme ça on ne perd pas du temps. Alors, simplement, pourquoi les œuvres GRM? Alors ça, c'était important parce que ça indique une manière de faire. Et si vous voulez, c'est un moment dans la phase de Xenakis où il y a des manipulations basiques, sont les manipulations sur bande sonore. Et on pourrait dire que pratiquement sur ces pièces, son vocabulaire d'opération est vraiment restreint à la découpe, le collage et la transposition. Alors, première pièce de toute cette histoire, c'est Diamorphose. Alors, on va juste écouter un petit extrait, juste pour se mettre en situation. Voilà. Alors, je vais en parler un tout petit peu. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout écouter. Voilà. Alors ici, vous voyez, ça c'est la représentation de cette pièce. Déjà, on voit des choses assez intéressantes. Vous voyez que déjà, il y a une première partie ici où il y a une très claire direction, si vous voulez, du matériau sonore ou de l'intensité ou de l'énergie dans le spectre. Après, vous avez une partie ici au milieu où il y a des oscillations assez claires. Une descente vers des régions plus graves et une partie ici à la fin. Voilà. Alors, première chose qui est assez qui est importante, comme je vous disais, je vais conclure avec ça aussi dans quelques instants, c'est que tout ça se veut vraiment des outils. L'idée, ce n'est pas de faire de l'analyse automatique, mais c'est d'avoir des outils heuristiques qui nous permettent de voir, qui nous permettent de segmenter. Alors, je vais avancer un tout petit peu. Alors, vous voyez, ça, c'est assez intéressant parce qu'en plus, on arrive très rapidement à avoir une idée rapide de la forme. Alors, comme je vous ai dit, je ne veux pas... C'est déjà presque 5 heures, je vais avancer, je ne vais pas rester là-dedans. Si vous avez des questions, je reviendrai. L'idée ici, c'est que ce type de représentation me permet, comme je vous dis, très rapidement d'inférer une forme. Et en plus, si vous voulez, d'inférer une forme, me permet d'identifier des articulations. Je vais avancer un tout petit peu sur Concret PH. Alors, Concret PH, vous devez vous rappeler, c'est la fameuse pièce de Xenakis qui a été faite avec des enregistrements de charbon ardent où Xenakis avait mis le microphone très très proche des braises et avait enregistré le crépitement du charbon. On va juste écouter pendant que je vous raconte quelque chose ici. Voilà. Ça, c'est. Et après, il avait découpé. C'est vraiment un des premiers exemples de synthèse granulaire à la bande, si j'ose dire. Dans le cas de Xenakis. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, vous allez le revoir. Dans ce cas particulier de Concret PH, si on regarde simplement la forme, c'est une espèce de forme tubulaire. Désolé, je reviens ici. Désolé, on va revenir. C'est une espèce de forme tubulaire difficile où vraiment il n'y a pas beaucoup de données pour la segmentation. Ça va être au moment de choisir une couleur ou un descripteur pour le troisième axe que les choses vont changer. Alors, ce qu'on a choisi ici, c'est la variation de nouveau, la variation spectrale. Et à partir de ça, on a des régions qui se présentent presque à nous, si vous voulez. Et ça, c'est extrêmement utile pour la segmentation. Je vais avancer encore un peu pour une troisième pièce. Alors voilà, on vient de voir Diamorphose. Et faisant un petit saut, trois années en avant, on va voir Orient-Occident. Alors, Orient-Occident, ça c'est une version de concert. Si vous vous rappelez de l'histoire, c'est une bande son que Xenakis devait faire pour un documentaire sur des objets. C'est un documentaire pour l'UNESCO. Xenakis n'était pas très à l'aise avec ce documentaire. Et après, il a fait la musique, mais après il a fait une version réduite, que c'est celle que je vais vous présenter très rapidement, et qui est ce qu'on connaît, la version concert de Orient-Occident. Alors, on va rapidement regarder. Oups. Alors voilà. Ici vous avez. Simplement pour voir, vous avez la visualisation de la masse sonore et les articulations que vous avez à l'arrière sont simplement des moments de synchronisation avec le film. Voilà, c'est simplement. Alors, je sais pas si vous, j'ai été très très vite, mais je sais pas si déjà vous voyez quelque chose. Je pense qu'on peut le voir à cause de l'utilisation des descripteurs et d'une représentation convenable. Malheureusement, on ne va pas tout écouter, mais ce qui est très intéressant lorsque on regarde cette description, je vais avancer un tout petit peu. On va le faire comme ça. C'est que si on prend cette même description et on la met en rapport à Dimorphose, si on fait une espèce de mise à l'échelle temporelle, les deux pièces ont des temps différents, hein, Orient-Occident au moins est plus que le double de Dimorphose, il y a déjà quelque chose qui nous saute aux yeux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que grosso modo, les deux structures, les deux formes se ressemblent énormément. Ça veut dire dans les deux cas, on a quelque chose comme une espèce de forme tripartite, avec un début où vous avez une espèce d'augmentation de la masse sonore et de l'énergie. Dans les deux cas, ils vont être légèrement différents, mais vous avez une partie qui est plutôt statique ici, dans Orient-Occident, et qui va être très très courte ici, à Dimorphose, avec une fonction de pont, si vous voulez. Après, vous avez une deuxième partie qui oscille, voilà, et qui clairement, on voit qui va très très haut dans les fréquences, qui va assez haut dans les fréquences, avec une oscillation, jusqu'à une espèce de point culminant. Et vous avez la troisième partie, où il y a un retour à des sonorités plus graves, avec quelque chose qui est assez amusante, c'est des types de sonorités qui sont plutôt statiques. Ça veut dire, même si ici vous voyez une oscillation, cette oscillation reste autour d'un pôle et fait des espèces de codas qui sont à la fin. Alors voilà, ça c'est, pour moi, ça c'est quelque chose d'assez intéressant qui montre quelquefois qu'en choisissant la bonne représentation, la représentation convenable au moment, il y a des choses qui peuvent se mettre en lumière. Alors je vais vraiment conclure très très rapidement sur deux points techniques qui ont été déjà soulevés. Alors il y a un, je suis très content que Philippe ait soulevé, c'était le problème que quelquefois lorsqu'on va vers le silence ou des sons plus faibles, on a une espèce d'augmentation de certains descripteurs. Et ça c'est vraiment un problème très très embêtant. Alors je vous montre simplement, ça c'est un petit sonagramme, un petit moment de Bohr. Vous avez ici un spectre instantané. Petit centroïde spectral à peu près de 2600 Hz et l'écart type 1500 Hz. Il me suffit d'avancer dans la partie où théoriquement il n'y a plus de son, mais il y a du bruit de fond. Et simplement mon écart type qui était de 1500 Hz, il augmente à 2800 Hz. Alors ça c'est un problème. Je pense que le premier problème c'est que les descripteurs qu'on a à notre disposition actuellement sont des descriptions physiques du son, et on n'a pas une description perceptive du son, on n'a pas une description psychoacoustique du son. Alors pour ce dont je vous ai montré, je vous montre un tout petit peu ce que j'ai fait, juste pour vous donner une idée. Alors ce que vous avez dans la courbe à l'arrière, c'est la courbe d'écart type spectral normal. Et c'est exactement ce dont avait parlé Jean-Marc Chouvel, c'est que pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on écoute, dans le travail que j'ai fait, je l'ai corrigé par... j'ai mis une espèce de seuil d'énergie et corrigé un tout petit peu pour me rapprocher du perceptuel. Voilà, ça c'est un premier point qui est assez discutable. Ça c'est ce qu'on appelle une espèce de, comment dire, une solution ad hoc, mais qui mériterait vraiment d'avoir peut-être un travail, une expérience sur qu'est-ce que un modèle de centroïde spectral ou d'autres descripteurs perceptuels. On ne connaît pas ce type de... Après, l'autre problème, c'est celui qu'on a discuté, le problème des paramètres d'analyse. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Il y a simplement un tout bête qui est simplement la fenêtre temporelle utilisée pour l'analyse. C'est très important, voilà, de trouver la résolution qui va être convenable à nos objectifs. Lorsqu'on est dans des cadres je pourrais dire scientifique, quelquefois on a besoin de fenêtres très très petites, mais lorsqu'on rentre dans des cas, dans des cadres musicologiques, il faut grosso modo adapter cela à la forme qu'on veut travailler et faire une différence entre précision d'analyse et fenêtre d'écoute. Quelquefois, ça peut être plus intéressant de faire des analyses avec des grandes fenêtres d'écoute, des grandes fenêtres. Bon, après, il y a toujours une espèce de compromis à faire, parce que de toute façon, nous, on ne perçoit pas des... Dans le cas musicologique, on ne va pas vraiment percevoir des événements... ça peut s'arriver, 50 millisecondes, voilà, ce n'est pas intéressant. Quelquefois, on recherche plutôt des tendances. Voilà, rapidement, c'est que le réglage des analyses doivent être cohérent avec nos objectifs et notre perception. Les conclusions, très très rapidement. Alors, ce dont je pense en général pour les descripteurs, et plutôt pour ceux dont je vous ai montré, c'est que c'est vraiment une approche globale. Il peut y avoir beaucoup d'utilité. Dans le cas de la représentation que je vous ai montrée, il y a eu une application l'année dernière, avant-dernière, dans un mémoire de master ici à la Sorbonne, ça a été utilisé pour analyser la couleur des interprétations de début de la sonate en si mineur par M. Michel Mahé. En général, je pense que ça, c'est vraiment une aide à l'écoute, à la notation et à la segmentation, ce dont avait parlé Pierre et aussi Philippe, si vous voulez. Voilà, c'est une aide. C'est un outil de description, ça veut dire que c'est un outil qui est incomplet, sélectif. Voilà, sélectif. N'oubliez pas que lorsqu'on utilise une représentation, on prend un objet et on prend un aspect qu'on va magnifier et cacher tous les autres. Et évidemment, ça nécessite un complément d'information. Je pense que l'analyse qu'avait faite Philippe Lalitte est assez claire là-dessus. Voilà, ça on va sauter, on n'a pas besoin. Par contre, je pense une autre chose qui est intéressante, ça peut être un outil pour la formation d'une oreille. Travaillant de plus en plus, j'ai l'impression d'écouter des choses que je n'écoutais pas avant. Mais évidemment, il faut faire très très, 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 très attention. Ça a été déjà pointé, par exemple, par Vincent Tiffon. Il faut faire très attention avec les supports visuels parce que ça peut induire des écoutes et quelquefois, notamment comme avec le sonagramme, on peut écouter des choses qui n'existent pas. Ou on peut voir des choses qu'on ne serait pas censé écouter. Il faut faire très attention. Et finalement, voilà, l'analyse physique du son, c'est ce qu'on a fait. C'est des informations issues d'un algorithme. Et tout ça, c'est une aide à l'écoute. Et dernière chose, je pense que c'est la dernière des dernières. Notre problème, je pense qu'on l'a vu un tout petit peu dans le graphique des composantes principales de Philippe Lalitte, tu avais trois descripteurs, tu avais le centroïde spectral, je pense que le roll-off, il y avait un troisième, je n'arrivais pas à lire, qui était dans la même direction. Voilà. Brightness, voilà, c'est la même chose. On a beaucoup de descripteurs à notre disposition. Ici, il y en a trois, le centroïde, spectral slope et le roll-off. Mais quelquefois, ils nous racontent la même chose, pour faire court. Ça veut dire que il y a une espèce de redondance d'informations. Et un des premiers travaux, un premier travail qui doit être important à faire, et moi ça me prend du temps, c'est de choisir les descripteurs qui peuvent être utiles pour décrire une situation sans qu'il y ait de la redondance. Voilà. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Si vous avez
un petit peu de temps pour une question, du coup on arrive jusqu'à 18h, je sens. Ah oui, bah ça, c'est sûr.
Merci pour cette présentation. Je me demandais, par rapport à ce couple entre descripteurs composés, donc entre le centroïde et les cartes spectrales, ça fonctionne bien parce que les descripteurs sont de la même nature. Alors, du coup, est-ce qu'il est possible de faire dans le cas d'autres descripteurs qui pourraient aussi marcher par pair? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent être testées ou est-ce que vraiment c'est un cas particulier?
Je pense que là, on a eu beaucoup de chance de prendre deux choses qui marchent vraiment bien. On s'est basé sur d'autres, voilà, nous, on n'a pas inventé les descripteurs, on a simplement proposé une représentation. C'est plutôt ça. C'est très compliqué, je pense que c'est assez évident. Là, ça marche très très bien parce que j'ai l'espace 2D qui est temps fréquence. Ces deux descripteurs qui sont ce qu'on appelle des descripteurs statistiques, grosso modo, sur la fréquence, alors ça marche très très bien. Après, je pense qu'il y a des choses à inventer d'un côté. Je pense que Geoffroy, qui a beaucoup d'expérience avec, avec beaucoup des descripteurs, c'est lui qui a fait le grand document sur les descripteurs qu'on utilise à l'IRCAM. C'est notre petite Bible, si j'ose dire. Je le taquine un tout petit peu, mais c'est quelque chose sur lequel on pense. Il pourra donner des idées. Mais ta question, si je me permets, elle rejoint un peu ce que j'avais dit. Il y a un petit travail à faire, déjà, de regarder les descripteurs et savoir musicalement à quoi ils peuvent correspondre. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il y aurait, par exemple, prendre des situations musicales, essayer de voir quels sont les descripteurs qui décrivent cette situation. Je pense que là, je tends la perche aussi à Geoffroy parce qu'il a fait beaucoup de boulot là-dessus, il pourra nous donner des informations. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, il y a beaucoup de recherches et qui peut être utile pour nous. Voilà. Et pour répondre à ta question, je ne sais pas. Voilà.
C'est plus qu'une question simple, ça n'appelle pas forcément une réponse.
Vas-y.
Ce qui me frappe, c'est au fond la réduction à une monodie. Ça, c'est très frappant. Et c'est effectivement ce qui participe à la lisibilité. Mais j'étais en train de me dire que, parce que quand même, ce que tu vis, tu as dit à un moment, c'est cette histoire de masse sonore, de choses comme ça.
Oui, oui.
On a l'impression que cette représentation serait pas si loin que ça des représentations de Fépierre, par exemple, enfin, très, très style GRM, tu vois des blocs de masse sonore, sauf que l'impératif monodique nous empêche de séparer les flux. Pour le dire très rapidement, si j'ai deux phénomènes différents, je fais ton analyse deux fois, c'est pas la même que si je fais l'analyse des deux phénomènes superposés.
Tout à fait.
Et du coup, je me demande si, au fond, cette histoire de centroïde spectral qui est à la fois qui résume les choses, est-ce que dans le cas d'un spectre, parce que tu nous as montré des spectres qui sont bien ronds, bien cohérents, mais si on...
J'ai triché sur toute la ligne,
non, mais,
je l'assume.
Non, mais c'est pas ça. Mais je me demande si justement il n'y a pas des endroits où il y a deux centroïdes, ou trois, ou quatre. Et c'est-à-dire que la question qu'on me posait, c'est jusqu'où on schématise. Et est-ce que, au fond, on ne peut pas avoir plusieurs centroïdes? C'est-à-dire, est-ce que c'est un impératif?
Là,
je vais te faire
tuer. Je pense que ce dont tu parles, ça serait des formants.
Oui, et oui, mais oui, mais oui. Parce que c'est une schématisation du spectre. Alors, à la fois, là où la question est perverse, c'est que on gagne parfois en compréhension en schématisant plus. Et c'est ça le truc. C'est là que je te dis, la question, c'est pas forcément une réponse immédiate.
Je vais essayer de répondre la fin. Je pense que dans notre mécanisme de connaissance, on a besoin, quelquefois, pour commencer le mécanisme, on a besoin d'une espèce d'attache. Et je pense que lorsqu'on schématise au maximum, il y a cette espèce d'attache. Et dans le mécanisme de connaissance, on a besoin de cette extrême simplification pour après refaire le chemin en arrière. Ça veut dire de reprendre cette espèce de phénomène qui est très très simple, qui est très voilà, qui a évacué presque tout, pour après reconstruire la complexité autour. C'est pour ça que je pense que je l'ai même répété deux fois. Ça, c'est une aide. C'est vraiment une aide. C'est une aide à la notation et ça doit être complété. Ça sans doute. Ça, c'est une chose. Pour l'autre question, c'est tout à fait pertinent. On peut avoir plusieurs centroïdes, voilà, c'est des formants. Il y a quelqu'un qui travaille un tout petit peu là-dessus, c'est Didier Guigues, c'est un Français qui est expatrié au Brésil, en plus, et qui s'était posé la question de comment, voilà, de s'il pouvait y avoir Alors, il a fait un papier là il y a quelque temps, s'il pouvait y avoir un centroïde spectral déformant, voilà un truc comme ça, pour essayer de trouver, parce que dans son cas, lui, il travaille pas avec la musique électroacoustique. Comme je dis, moi j'ai triché, parce que j'ai travaillé avec des musiques de texture, voilà, ça c'est clair. Et lui, il essaie de travailler avec de la musique orchestrale, et dans la musique orchestrale, on a des formants, des choses qui sont très très claires, et le centroïde spectral n'est pas très très utile. C'est pas le, voilà, il donne des informations qui, je ne dirais pas contradictoires, mais qui ne sont pas pertinentes. Alors, de ce point de vue, lui essaie de travailler avec les formants. Voilà, c'est juste là, pour dire. Voilà. C'est, excuse-moi.
C'est brouillé, quoi.
Ah, c'est brouillé, c'est... voilà, voilà. C'est brouillé. Bon, voilà. Bah, juste pour donner cette réponse très rapidement.
Ah, oui. Donc, petit approfondissement, tu vas nous avoir souvenir. Donc, l'analyse, c'est un peu. La question, c'est sur la relation entre l'écoute et l'analyse dans les scripteurs. Est-ce que c'est plus une manière d'expliquer ce que tu entends dedans ou une documentation, et est-ce que soit l'une, tu as vu quelque chose dans la description que tu n'avais pas entendu avant, ou aussi dans l'autre sens, tu entends souvent des choses et tu ne trouves aucun descripteur qui peut te le documenter.
Pour faire simple, je dirais oui à toutes les questions, mais pour prendre une à une, je dirais que c'est toujours une aide. Ça veut dire que quelquefois je prends un descripteur. C'est bon, en musicologie on a quelque chose qui s'appelle analyse orale. Voilà, ça veut dire que je prends, je regarde le descripteur, j'écoute, et j'essaye de voir s'il y a une corrélation quelque part entre ce que j'écoute et je vois. Ça, c'est de temps en temps je trouve rien. De temps en temps, comme par exemple le petit morceau que j'ai montré ici. C'était la pièce de Hans Tuchku. Ça, oui, c'était plutôt très très brièvement aussi. Oups, désolé, ça. Oups, c'était là. Notamment dans cette dernière partie, c'était assez drôle. J'étais capable d'écouter le timbre qui montait et qui descendait. Je dis ah tiens. Et d'un autre côté, voilà, de temps en temps, je n'écoute rien, mais de temps en temps, ce type de description, c'est ce m'aide à développer un solfège, d'essayer d'écouter le timbre en faisant abstraction d'autres paramètres. C'est pas évident. Voilà, c'est... Là, pour moi, c'était très très clair, cette dernière partie ici. Voilà, il y a d'autres cas aussi. Ça fonctionne quelquefois comme une aide. Mais il faut faire attention de ne pas écouter ce qui n'existe pas. Ça, c'est... Voilà, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Oui, salut,
juste pour
bonjour.
Le travail dont tu as parlé, la conférence que tu as donnée à Paris 8 en 12, est publié.
Ah, c'est déjà publié.
C'est publié.
Ah, d'accord.
Voilà, donc c'est disponible sur soit par Paris 8, soit par le LADEX de Paris 8,
d'accord.
Soit en s'adressant directement à Macky-Sonne.
Et super. Je complète en disant que l'article que tu as cité sur la DSTD, je viens juste de sortir.
J'ai de la chance cette semaine. Cette semaine, j'ai de la chance.
Le colloque de Strasbourg que tu citais tout à l'heure,
c'est ça. Il va sortir.
Voilà, c'est ça, c'est celui-là, c'est ça.
Ça
nous a pris 4-5 ans, mais c'est bien, c'est fait. Très bien.